Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire, la nouvelle émission d'histoire de France Inter du lundi au vendredi à 14h04. À podcaster chronique après chronique ou bien dans la totalité de la série qui est aussi diffusée le dimanche à 21h. En 1789, les États généraux ont-ils déclenché la Révolution française ? C'est la question que nous nous poserons toute cette semaine, une question simple en apparence. Nous avons tous appris à l'école les événements de cette année-là. Louis XVI convoque les États généraux et appelle ses sujets à rédiger des cahiers de doléances. Les États généraux s'ouvrent à Versailles le 5 mai. 17 juin, le tiers-État se proclame Assemblée nationale. 20 juin, les députés prêtent le serment du jeu de paume. Et le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Avec l'habitude, cette chronologie résonne presque comme une rengaine. Et pourtant, non, rien n'était écrit. Le 5 mai 1789, l'image est saisissante. Celle, on peut le dire aujourd'hui, de la fin d'un monde. À l'hôtel des menus plaisirs à Versailles, Louis XVI, trônant sous un dais majestueux, entouré de la reine et des princes de sang, ouvre en grande pompe la première séance des États généraux. À sa gauche siège la noblesse, à sa droite le clergé, et en face le tiers-État qui représente 98% de la population et qui ce jour-là dépose aux pieds du souverain les précieux cahiers de doléances. Mais il est alors impossible à Louis XVI, ni même à tous ceux qui lui font face, d'imaginer que cette cérémonie sera la dernière du genre de l'Ancien Régime, que quelques semaines plus tard, les députés de tiers-État, tous de noir vêtus, réunis en apparence humblement devant leur monarque de droit divin, vont se révolter, se constituer en Assemblée nationale et s'emparer du pouvoir au nom d'une nouvelle conception de la légitimité politique. La Révolution française était lancée et rien n'allait l'arrêter. Mais comment, pourquoi et à quel moment ces États généraux, qui avaient été ordonnés par le roi pour trouver des solutions à la crise financière de la France, sont-ils devenus, par une brutale accélération de l'histoire, les premiers fossoyeurs de l'Ancien Régime ? Que s'est-il joué dès les premières semaines de ces États généraux ? On en parle toute cette semaine avec vous, Pierre Cernat, bonjour.
Bonjour.
Pierre Cernat, historien, spécialiste de la Révolution française, professeur à la Sorbonne.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les perspectives sont peu encourageantes.
Quel est votre avis, Monsieur Necker ?
Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
Non, Monsieur Necker.
Votre seconde option ?
Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté.
Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker.
Sire, c'est inévitable.
Durant l'été 1788, répondant à son ministre Necker, Louis XVI décide de convoquer les États généraux du royaume pour le 1er mai 1789. C'est la première fois depuis ceux de 1614, ordonnés alors par le jeune Louis XIII. Convoquer les États généraux, c'est réunir les représentants des trois ordres qui composent la société d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Les États généraux ne sont convoqués que lors de circonstances exceptionnelles. En 1788, pourtant, la situation de la France semble solide. Louis XVI règne sur un immense royaume, peuplé de 27 millions d'habitants, le plus peuplé d'Europe après la Russie. La cour de Versailles continue d'afficher sa splendeur et la France demeure une puissance militaire respectée, auréolée de sa victoire contre l'Angleterre et de son soutien apporté à l'indépendance américaine. Mais derrière cette façade brillante, l'État est au bord de la faillite, les caisses sont vides. Les ministres se succèdent et toutes les tentatives de réforme se heurtent au même obstacle, l'injustice fiscale. Le système repose presque entièrement sur le tiers-État, tandis que la noblesse et le clergé bénéficient de privilèges fiscaux auxquels, dans leur immense majorité, ils n'entendent pas renoncer.
La Révolution a des racines profondes. Vous faisiez référence à cette convocation des États généraux. Depuis le coup de force de Louis XV, le grand-père de Louis XVI, un homme comme Lamoignon de Malesherbes, président au Parlement de Paris, réclame la convocation des États généraux. C'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Et la crise n'a cessé d'augmenter depuis que les finances ont été lourdement grevées par une politique systématique de l'emprunt qu'a pratiqué Necker, succédant à Turgot. Le problème est double. Non seulement la France est mauvaise payeuse, donc les emprunts ont des intérêts particulièrement lourds auprès des banques, surtout des Pays-Bas. Et en même temps, donc, cet emprunt est de plus en plus important. Encore en 1788, Necker vient au Parlement de Paris pour demander un emprunt de près de 400 millions de livres. Lorsqu'on songe que le budget de l'année de la France royale annuelle est de 300-350 millions de livres, on se rend compte de l'immensité de cet emprunt. Mais il y a aussi une crise politique, puisque, vous le savez, j'espère ne pas vous étonner, ce ne sont pas les peuples qui font les révolutions. Ce sont les élites qui les commencent toujours. Lorsque les élites sont en désaccord sur un programme politique, et elles sont profondément divisées, ces élites en France...
La noblesse.
La noblesse, le clergé, et le tiers-état aussi. Donc ils ne sont pas d'accord sur le modèle de société, donc le modèle de royauté, puisque c'est l'horizon d'idéalité, n'est autre que la royauté. Personne n'imagine un autre régime que la monarchie. Or, la monarchie est en crise. Est-ce qu'on veut une monarchie administrative? Est-ce qu'on veut une monarchie parlementaire, comme en Angleterre? Est-ce qu'on veut une monarchie modérée? Tout cela est en discussion et des élites sont déchirées. Ce n'est pas tant la situation économique qui est préoccupante. L'Angleterre a une dette plus importante. Mais au moins, les élites sont unies derrière un projet de société qui n'existe pas en France.
Et en 1788, il y a aussi une situation particulière, des famines, des révoltes qui commencent à gronder dans le pays.
Le climat a des incidences politiques. Depuis 1785 et le soulèvement des volcans en Islande, un immense panache de poussière recouvre l'Europe et dérègle les récoltes. Des orages catastrophiques à l'été 1788, donc dérègle bien sûr cette économie d'ancien régime qui ne peut vivre que d'une récolte sur l'autre. Et on sait bien donc que les mois de printemps et les mois d'été sont pas simplement les plus chauds réellement, ils sont les plus chauds métaphoriquement. Ça veut dire que les mois de soudure, c'est-à-dire les mois où la fin de la récolte de l'année précédente s'épuise et la récolte n'a pas encore été faite, voient les prix des céréales flamber.
Pierre Cerna, qu'est-ce que Louis XVI attend de ses états généraux ?
Sortons de la caricature d'un Louis XVI gros benet qui ne comprend pas toujours ce qui se passe ou complètement à la botte de Madame Capet, alias Marie-Antoinette. Louis XVI est un homme qui a pour mission, pour fonction d'incarner ce qu'est la monarchie de droit divin. Et il le fait. Mais en même temps, il a aussi des impératifs politiques. Il voit bien que toutes les réformes de tous les meilleurs administrateurs, peut-être de tout le XVIIIe siècle, Turgot, en attendant, Necker, qui lui propose une alternative, sont rejetés systématiquement par la noblesse et par les noblesses des parlements qui sont ligués contre son pouvoir.
Donc Louis XVI convoque ses états généraux parce qu'il souhaite lever de nouveaux impôts et pour cela il a besoin des états généraux.
Louis XVI fait un pari politique à mon avis. Il tourne le dos à la noblesse, il tourne le dos au clergé. Les nobles et le clergé sont furieux de la convocation des états généraux, car pour eux, le roi s'adresse à ce qui va devenir un des concepts les plus forts, la nation, passant quasiment une alliance objective avec le tiers-état, disant aux nobles qui ont refusé en 1787 lors de l'Assemblée des notables « Vous ne voulez pas payer l'impôt territorial », disant au clergé qui a suspendu le don gratuit « Vous ne voulez pas donner d'argent », je me tourne vers les forces vives de la nation, qui sont les 98,5% de Français qui constituent le tiers-état.
Mais qu'espère-t-il du tiers-état ?
Ce qu'il espère du tiers-état, c'est pas tant qu'il paie les impôts, c'est qu'il puisse remettre en jeu une égalité fiscale qui puisse toucher l'ensemble des ses sujets. Mais attention, il demande aux membres des états généraux que les assemblées provinciales soient aptes à lever les impôts. Et donc il y a là une volonté non pas de nationaliser les impôts, mais de provincialiser les impôts, car il sait que qui paye l'impôt a le pouvoir. Et donc s'il y a cette menace-là, sa souveraineté risquerait d'être entamée. Donc le plan de Louis XVI est un peu plus subtil que celui d'un homme qui part en avant et qui n'a pas d'autre choix que de convoquer les États généraux.
Merci Pierre Cerna. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les États généraux vont se mettre en place. Première étape, l'élection dans tout le royaume des futurs députés et la rédaction par tous les Français des fameux cahiers de doléances.